Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal.
Les titres de l'actualité. Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, la lutte contre l'insécurité est grandement handicapée par nos mauvais comportements. Déclaration faite par la FAIB, Fédération des associations islamiques. Marche des populations du Sahel à Dori pour réclamer plus de sécurité. Le gouverneur conteste l'idée selon laquelle il aurait refusé de recevoir les doléances des marcheurs. Et si cette crise sécuritaire semble difficile à résoudre par les nouvelles autorités, selon l'ancien Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, il n'y a pas de quoi s'affoler car il y a des avancées dont la lutte, vous l'entendrez dans cette édition. Et puis notre invité du jour est Boukari Nebier, directeur général de l'OPAD, l'Observatoire de production et d'analyse du discours. Avec lui, on revient sur l'entretien la semaine dernière du Premier ministre. La Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, a estimé hier dimanche, au terme d'un séminaire de formation qui a réuni plus de 700 imams et prêcheurs venus de tout le pays, que la lutte contre l'insécurité est grandement handicapée par les mauvais comportements des Burkinabés. Une déclaration sur la situation sécuritaire du pays à l'issue du séminaire qui avait pour thème le discours islamique dans un contexte d'insécurité. Écoutez le président de la FAIB, Moussa Kwanda.
Au Burkina, nous avons plus de 8000 villages. Et chaque village, il y a un ou deux imams ou plus. Et chaque imam, cinq fois par jour, a plus de 1000 personnes derrière lui. Donc si ces gens-là passent de messages, ça peut être productif pour la paix et la cohésion sociale. Nous attendons qu'il soit le messager de la paix dans toutes les 8000 villages que vous connaissez. C'est tout.
À l'instant, le président de la FAIB qui a notamment estimé que la lutte contre l'insécurité est grandement handicapée par nos mauvais comportements. Parlons de mauvais comportements. Rappelez-vous, les populations du Sahel ont battu le pavé samedi à Dori pour interpeller les autorités de la transition sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la région du Sahel. Joint au téléphone par Radio Oméga, le coordonnateur de la marche, Yaya Ahmad Diko, avait indiqué que le gouverneur de la région du Sahel a refusé de les recevoir, dénonçant une attitude de mépris. Mais le gouverneur de la région du Sahel réfute cela. Rodolphe Fabien Sorgo s'exprime au micro de nos confrères de la RTB.
Et je ne voudrais pas qu'on dise que le gouverneur a refusé de les recevoir, parce qu'en dépit de, j'allais dire, de l'aspect plus ou moins illégal de la marche, aujourd'hui c'est le dernier samedi du mois et c'est l'opération Manamana. Je devais être dans un lieu. Et donc, si je suis resté ici, c'est parce que je prends au sérieux la question sécuritaire. C'est eux qui ont refusé de rentrer et puis de discuter avec le gouverneur. C'est eux qui ont refusé leur partition. C'est pas moi. Et j'ai dit, je suis ouvert à toute personne qui a une proposition qui peut tendre vers une résolution endogène de la crise. Je suis là.
À l'instant, le gouverneur de la région du Sahel, Rodolphe Fabien Sorgo, qui dit être ouvert au dialogue. Insécurité toujours dans la boucle du Moun, les taux se resserrent au lendemain de l'attaque de Solenzo, où les locaux abritant ces symboles de l'État ont été vandalisés et dynamités. Les hommes armés non identifiés ont récidivé. Dans la nuit de samedi à dimanche, ils ont saccagé ce qui restait dans le commissariat et ils ont incendié l'État civil et le groupe électrogène de la mairie. On en sait un peu plus avec Charles Da.
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 août 2022, aux environs de 20 heures, des hommes armés venus à bord d'un pick-up et d'une vingtaine de binômes de moto se sont attaqués à la commune de Solenzo. Ils ont saccagé ce qui restait dans le commissariat qui, rappelle-t-on, avait été déjà attaqué. Ils ont ensuite incendié l'état civil et le groupe électrogène de la mairie. Au niveau de l'ex-office national des télécommunications Onatel, des antennes téléphoniques ont été vandalisées. privant maintenant la localité de réseaux Move et Orange. Selon nos sources, les assaillants se sont retirés vers 1h du matin, abandonnant sur place des étuis de machette et un sac contenant des écrits en langue étrangère. Des engins d'une entreprise chargée du bitumage de la route ont été brûlés.
La région de l'Est fait également face à une insécurité grandissante. L'attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans la localité de Natia Bouali, province de la Tapoa, a fait 6 morts, tous des civils et 2 blessés, selon un bilan dressé par l'armée. Un autre bilan publié samedi soir précise que les véhicules attaqués n'appartiennent pas à la mine, mais plutôt à des fournisseurs de la mine de Bungu. On rappelle, le 6 novembre 2019, une attaque d'un convoi de la même mine de Bungu avait fait 37 morts selon un bilan officiel. Et alors que des voix s'élèvent pour acculer le MPSR dans la gestion de la crise sécuritaire et l'indexant d'avoir échoué dans sa mission de restauration de l'intégrité du territoire, Luc Adolphe Thiaw pense le contraire. Le dernier Premier ministre de Blaise Compaoré, l'honorable Luc Adolphe Thiaw, président du Rassemblement patriotique pour le développement, était l'invité de votre émission Dimanche politique. Je vous propose un extrait de ses propos.
Moi, je ne m'inscris jamais dans ce genre d'analyse. Je dirais même que ce sont des fantasmes. On fait comme si on ne vit pas au Burkina. On parle comme si nous étions à l'autre bout du monde. Si la situation était pire qu'elle l'était, peut-être que Ouagadougou aujourd'hui était pris. Qu'est-ce que vous en savez? Je pense qu'au lieu de faire ces analyses-là qui tendent à dire oui, ils ont échoué, or que nous voyons qu'il y a quand même des résultats sur le terrain, vous avancez des chiffres. Qu'est-ce qui vous prouve qu'aujourd'hui on a reculé? Moi je dirais non, on a gagné. Peut-être que il y a encore, bien sûr, quand on regarde ces derniers temps, les actions d'éclat qui sont menées, c'est-à-dire on attaque des symboles de l'État, des commissariats, des gendarmeries, on incendie des véhicules. Bon, ce n'est plus totalement la même forme de terrorisme que nous connaissions il y a déjà 1 an, 2 ans. On a vu depuis que le président Damiba a commencé à réorganiser le terrain, les forces de défense et de sécurité, à mettre en place un nouveau maillage, même s'il y a eu quelques attaques contre des positions de force de défense de la sécurité, il y en a de moins en moins. Les gens, ceux qu'on appelle les terroristes, sont obligés aujourd'hui de s'en prendre à des civils qu'ils tuent inutilement.
Que faire si, au terme de la période de transition, les autorités n'arrivent pas à récupérer les espaces occupés par les terroristes? Faudra-t-il quand même tenir les élections? Une question qui résume tout le problème de l'agenda de la transition, à en croire Luc Adolphe Thiaw.
Nous, en tout cas, ayant fait partie des assises, nous avons estimé que vraiment, c'est les délais qui étaient peut-être raisonnables pour être sûr qu'au bout de 3 ans, on allait parvenir effectivement à une sécurisation maximale des territoires. Bon, mais ce n'est pas le point de vue de la communauté internationale, ce n'est pas le point de vue d'une bonne partie de la classe politique. Aujourd'hui, on a 22 mois. On parle plus de 24 mois. Aujourd'hui, on a 22 mois. Et justement, l'intérêt d'adjoindre des représentants des partis politiques et puis ou d'autres composantes dans le comité technique, c'est que les gens eux-mêmes vont avoir la lecture. Parce que avant, tant que vous n'êtes pas dans un système que vous-même vous pensez contrôler, vous croyez toujours que ceux qui sont à côté veulent vous tromper. Mais si nous avons nos représentants là-dedans, mais ils auront régulièrement des informations sur l'état d'avancement de la lutte contre le terrorisme. Dans le précédent agenda de 36 mois, on estimait qu'on pouvait organiser les élections si 75% du territoire était recouvré. Bon, en 2020, je ne sais pas. On parlait de 30%, mais peut-être même pas. Donc, il faut qu'il y ait des conditions minimales de sécurité. Et moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit à 75% au minimum. C'est pour ça qu'on ne peut pas organiser des élections en excluant 50% de la population. Il ne faut pas qu'on reprenne les mêmes erreurs commises en 2020.
Luc Adolphe Thiaou, président du Rassemblement patriotique pour le développement, RPD, député à l'Assemblée législative de la transition, était l'invité de Denis Zongrana à l'émission Dimanche politique. La rediffusion de votre émission, c'est ce matin à 8h et 11h sur Omega TV. Visite de courtoisie du gouverneur aux autorités coutumières et religieuses du Ioba, Burema Savadogo, compte sur la contribution de ces personnes morales pour l'ancrage de la cohésion sociale. Cette visite a eu lieu après l'opération Manamana du 27 août, synthèse Ouaboué-Bakouan.
En marge de sa tournée de supervision de l'opération Manamana, le gouverneur du Sud-Ouest a rendu visite aux autorités coutumières et religieuses du Yoba, Burema Savadogo.
Nous comptons en tout cas remercier ces autorités morales qui font un travail remarquable pour notre pays dans le cadre de la cohésion et de la paix sociale. Et la nécessité de continuer à sensibiliser est là.
Première étape chez Sa Majesté Nanfa II, le chef de canton a édicté des mesures aux chefs de terre et de village.
Comme initiative, nous avons demandé aux chefs de terre et de village d'identifier toute personne étrangère qui rentre dans le village. Pour les personnes déplacées internes, obligatoirement, ces personnes doivent être identifiées par l'action sociale et la police. C'est après cela que l'action sociale va prendre le relais.
L'action sociale demande des bonnes charges.
La délégation du gouverneur va tour à tour se rendre à la mosquée de Danom, à l'église catholique et au temple de l'église évangélique. Les différents responsables mesurent les enjeux au regard du défi sécuritaire. Le pasteur Ayuro Dominique.
Le vivre ensemble, c'est-à-dire quel que soit ton bord. C'est-à-dire chacun doit avoir dans son cœur le message de paix. Et ça va nous faire sortir de cette histoire de crise.
Le gouverneur dit avoir eu auprès de ses interlocuteurs des oreilles attentives.
Ces autorités, elles promettent que d'ici là, on pourrait voir les résultats probants et sur le terrain.
Cette visite de courtoisie ressemble à un retour au Bercaï. Le gouverneur a déjà servi à Dano comme directeur provincial de la police nationale. Dano Ouaboué-Bakouan, Radio Omega.
Et dans le cadre de ses activités sociales et pour participer à l'œuvre nationale de régénération des couverts végétal, Wenkuni Banque Internationale a organisé une campagne de reboisement samedi dans la ville de Kombisiri, chef-lieu de la province du Bazega, région du centre-sud. Plus de détails avec Irène Nikiema et Alinta Ouedraogo.
Wenkuni Bank a répondu à l'appel du gouvernement de transition qui appelait à planter des arbres lors de la journée de l'arbre édition 2022. L'institution financière est hors de son cadre habituel mais déterminée. Ce sont environ 150 plants qui ont été mis en terre, une première pour Wenkuni Bank, indique la directrice Jeanne-Marie Christine Tani.
La Wenkuni Banque Internationale, dans sa vision, a une politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, à travers laquelle nous avons une activité de reboisement qui était prévue. Et nous avons décidé cette année de réaliser cette activité à Kombisiri. Donc nous comptons œuvrer à reboiser et à accompagner la restauration du couvert végétal, à lutter contre le dérèglement climatique et permettre également aux populations de Kombisiri, notamment aux élèves de cette école, d'avoir des arbres qui produisent de l'ombre et sous lesquels ils peuvent s'abriter ou réviser facilement leurs leçons.
Le gouverneur de la région du Centre-Sud a présidé cette activité. Yvette Nakoulma salue cette vision de Wenkuni Bank.
L'action de Wenkuni Bank est un acte citoyen et également un acte patriotique. Nous le savons que c'est une banque qui parle de banque, parle de profit. Mais indépendamment de cela, on voit qu'il y a une responsabilité sociale au sein de cette entreprise qui, au-delà de sa mission, mène des actions en faveur des populations.
Planter un arbre, c'est l'entretenir, a lancé Abbé Herman Ouedraogo, curé de la paroisse Saint-Joseph. Pour ce, il sollicite une fontaine afin de faciliter l'entretien de ces arbres.
Une chose est de planter, une chose est d'entretenir. Alors, chaque année, on met des milliers de plants sous terre et quand on revient une année après, c'est toujours le désert. Vous voyez, sur le site, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'adduction d'eau, le nid n'est pas à côté. Alors nous tapons à gauche, à droite des portes pour pouvoir bénéficier d'un forage. Si nous avons un forage, nous sommes sûrs que nous pourrons entretenir les arbres comme il faut. Et aussi, voilà, ce forage pourrait aider les élèves pour qu'ils puissent assouvir leur soif.
Wankuni Bank a planté des arbres, mais aussi fait don de 250 plants à plusieurs administrations locales de la commune. C'est donc au total 400 plants qui ont été offerts à la ville de Kombisiri. Ils invitent cependant la population à les entretenir afin que cette activité ne soit pas vaine.
L'actualité internationale, les funérailles nationales de José Eduardo dos Santos ont eu lieu hier à Luanda. Décédé le 8 juillet à Barcelone, il aurait eu 80 ans. Ce dimanche, la dépouille de José Eduardo dos Santos repose désormais aux côtés du père de la nation angolaise. Plusieurs chefs d'État africains sont venus assister aux obsèques nationales de l'ancien président. Parmi eux, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Félix Tshisekedi de la RDC ou encore le président du Mozambique. En Libye, de violents combats entre milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli, la capitale. Elle a été secouée par des fusillades et des explosions et se sont prolongées jusque dans la soirée de samedi, faisant au moins 32 morts et 159 blessés, selon un nouveau bilan du ministère libyen de la Santé publique dimanche. Et au Pakistan, les inondations provoquées par les pluies de mousson débutées en juin 2022 ont provoqué la mort de 1030 personnes selon le dernier bilan publié dimanche par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes, relate l'AFP.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Notre invité du jour est Boukari Nébié, directeur général de l'OPAD, l'Observatoire de production et d'analyse du discours. Avec lui, on revient sur l'entretien la semaine dernière du Premier ministre Albert Ouédraogo. Écoutez son analyse au micro d'Abdoul Fattah Tiemtouré.
Boukari Nébié, bonjour. Le Premier ministre Albert Ouédraogo était face à deux journalistes mardi dernier pour une interview bilan de son exercice à la tête du gouvernement. La première interview du genre d'ailleurs. Et il s'est dit conscient des enjeux liés à sa mission et engagé à la remplir. En tant que spécialiste de l'analyse du discours, qu'est-ce que vous retenez de sa prestation, si on peut l'appeler ainsi?
Je note d'abord que c'est une interview pré-enregistrée et cela donne l'avantage à l'interviewé, qu'est le Premier ministre, d'avoir une position de surplomb que si l'on était dans une interaction en direct ou improvisée. Ensuite, je note que le Premier ministre et ses interviewés ont tenté de faire le tour des grandes thématiques, entre autres la crise sécuritaire et humanitaire, la réconciliation nationale, le partenariat avec les différents pays, la gouvernance, l'inflation, et j'en passe. Sur ces questions, le Premier ministre a globalement eu des réponses satisfaisantes. Par exemple, quand il évoque la question de la diversification des partenariats, en taclant l'ambassadeur français Luc Allade sur son expression « idiot utile », en mentionnant clairement que la jeunesse est de plus en plus consciente et elle se prend en charge. Et toute personne qui n'aurait pas compris cela est la véritable idiote. Et même une tacle aussi à Macron, quand le Premier ministre estime que au Burkina Faso, on a des Français qui vivent en bonne intelligence avec les Burkinabés. En France, on a des Burkinabés qui vivent en bonne intelligence avec les Français. Donc, il n'y a pas de haine entre Français et Burkinabés. Il y a plutôt que les Burkinabés et les Africains, de façon générale, ne comprennent pas la politique française en Afrique. Donc, une manière de répondre de façon implicite au président français Macron qui estime qu'il a un sentiment anti-français. Cela dit, je note cependant que dans ces réponses, il y a quand même quelques réponses un peu malheureuses, il faut le dire, parce que en tant que Premier ministre, a laissé entendre que la réconciliation n'est pas une priorité. Il a aussi dénoncé l'instabilité des institutions notamment à chaque fois qu'un régime, un nouveau régime arrive, qu'il a de nouvelles autorités, on change quelques responsables et il estime que cela ne favorise pas la continuité de l'administration dans une certaine mesure. Or, justement, sous son magistère, en tant que Premier ministre, ces pratiques-là ont toujours cours.
Est-ce qu'au vu de ce que vous avez énoncé, les Burkinabés peuvent-ils être encore confiants quant à l'action gouvernementale? Y a-t-il suffisamment d'espoir pour ce peuple dont une bonne partie commence à désespérer?
Vous savez, il a indiqué que dans le délai de 24 mois, donc les 2 ans, arrêté par consensus avec la CEDEAO, il y aura un suivi. Et le suivi va se faire sur trois facteurs, c'est-à-dire la restauration de l'intégrité du territoire, le retour des PDI, des personnes déplacées internes donc, et le retour des services de l'État. Alors cela veut dire en clair que les Burkinabés sont dans une logique aujourd'hui qui est que ce ne sont pas les discours seulement qui les intéressent, mais ils ont besoin d'actes concrets sur le terrain pour être convaincus de ce que les autorités leur disent.
Au-delà du Premier ministre, parlons de l'appareil d'État en général. C'est un pouvoir militaire qui est installé depuis janvier, avec certainement une manière particulière de communiquer. Comment vous appréciez le discours porté par les autorités de la transition depuis l'avènement du MPSR?
Ces nouvelles autorités-là ont véritablement un besoin d'un accompagnement en termes de production, énonciation de discours. Parce que la réalité que les gens doivent comprendre, ce qu'un discours est un produit que l'on vend. Et si le produit n'est pas bien présenté, même s'il était bon, le vendeur risque de ne pas avoir d'acheteur.
Boukari Nebié, vous avez certainement vu circuler comme nous des interventions, des extraits d'interventions du chef de l'État tournés en dérision par certains internautes. Et pour beaucoup, ça ne devrait pas être le langage d'un chef d'État, d'un chef de guerre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Sans minimiser l'apport du discours dans la galvanisation des troupes et la mobilisation des énergies et des intelligences collectives, je dirais que le président du Faso ne sera pas jugé au soir donc de ces 24 mois-là par les Burkinabés sur les quelques expressions familières dans ses discours, mais sur sa capacité et son leadership à recouvrer la totalité du territoire et à permettre aux personnes déplacées internes de retourner dans leur localité d'origine.
Pour vous, s'il y a quelque chose à rectifier dans le discours d'État, j'espère que ça se dit, ce serait quoi?
Il faut revoir la forme et le fond. La forme parce que la forme tient le fond en l'état. Le fond parce que si vous dites des choses difficilement vérifiables sur le terrain, ça ne passera pas. Le fond parce que si ce que vous dites n'est pas en conformité avec vos pratiques au quotidien, les gens ne vous prendront plus au sérieux.
Boukari Nebié, merci.
Merci bien.
Vous écoutiez Boukari Nebié, il est plutôt le directeur général adjoint de l'OPAD, l'Observatoire de production et d'analyse du discours. C'est la fin de ce journal réalisé par Adama Konaté. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme.
Radio Omega, l'info en direct.